Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
C'est alors qu'il faut marcher. Marcher tout seul. Il faut marcher. Marcher tout seul. C'est alors qu'il faut marcher. Marcher tout seul. Marcher. Marcher tout seul. Marcher tout seul.
Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission « À nous le futur », ça veut dire « À vous le futur », puis ça veut dire aussi « Le futur positif ». J'imagine non trumpiste, ça fait que ça va bien, j'espère que oui, moi je vais bien. Vous travaillez peut-être, moi aussi je travaille dans le sens, du nouveau sens du mot « travail », qui va peut-être en harmonie avec le festival de la décroissance qui se passe en ce moment. Le travail étant l'harmonie avec soi-même, une pratique de l'harmonie avec soi, avec les autres et avec la nature. Et puis, je voyais dans la liste des inspirations pour la semaine de la décroissance, il y a Gorz, G-O-R-Z, qui écrivait « se satisfaire ou jouer de la suffisance ». Je pense que c'est ça, c'est un mot très important, la suffisance. Parce que nous avons tout ce qu'il faut pour avoir tout ce qui est suffisant pour que tout le monde vive très bien. Suffisance et les besoins de base satisfaits, sans nuire à l'écologie et sans guerre pour y arriver. Fait que je répète ça depuis à peu près 2 ans, puis je vais continuer de différentes manières. Alors, tout à l'heure, la chanson que nous entendions, c'était de Kanen, c'est Nimuesh Taten Nete, Neta, en tout cas. Ça veut dire « Je m'ennuie de là-bas ». Je ne sais pas dans quelle langue. Mais je trouve que c'est une belle synchronicité parce que tantôt, je vais vous parler d'un dictionnaire qui est à la rencontre des langues autochtones du Québec. Pour l'instant, pour ceux qui trouvent que je fais peut-être du coq à l'âne assez souvent, je pourrais me défendre en disant que je fais de la transdisciplinarité, que je parle de la transversalité. Autrement dit, c'est la pensée systémique et la pensée complexe qui m'intéresse. Sans que j'ai cherché à le faire, je l'ai fait, je pense. Fait que ça, c'est inspiré de Edgar Morin, aussi du philosophe, du physicien Friedrich Capra. Et puis, en général, si mes propos peuvent vous perdre, sachez que durant ce semestre-ci, jusqu'à la fin du semestre, les lignes de fond, ce sont tendances vers la sécurité alimentaire, vers le calme, la détente, vers la biodiversité, la réforme de la démocratie et les sortes d'intelligence. Donc, je vais vous parler de ça, mine de rien, chemin faisant, d'ici à Noël. Puis après Noël, après les fêtes, ce sera la tendance de fond, sera la recherche de la sécurité énergétique. Et puis toujours dans le calme, en parlant de biorégion et de la pensée complexe. OK? C'est de ce à quoi il faut s'attendre, même s'il y a beaucoup de choses divergentes. Par exemple, tout de suite. J'ai trouvé un document que j'avais de coller sur mon mur chez moi, puis j'ai déjà vu ça dans un cours de gestion du stress qu'un médecin donnait à Montréal. Alors, ça s'appelle « Peut-on s'entendre, peut-on s'écouter, se comprendre? » Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 points de ne pas s'entendre. Et il faut survivre avec ça, parce que quand il y a 9 points de ne pas s'entendre et qu'au moins 9 nations ont des bombes atomiques, il faut savoir s'écouter, se respecter, s'aimer, hein, n'est-ce pas? Et puis, cette semaine, j'ai entendu, avec une oreille un peu distraite, dire que Taylor Swift, n'est-ce pas, ça revient à Toronto, puis qu'elle va chambarder la ville de Toronto, qu'elle va générer 250 millions de dollars au moins de revenus, en plus du milliard de dollars de vente de billets. Et j'ai aussi entendu que Taylor Swift est aussi importante que l'ont été les Beatles. Alors moi, ça a attiré mon attention parce que les Beatles, c'est plus de ma génération. Puis j'ai un livre sur les Beatles dont je vais vous parler tout à l'heure. Et je me suis demandé en quoi Taylor Swift est-elle égale aux Beatles. Dans le livre sur les Beatles, il y a au moins 80 pages sur la révolution musicale qu'ils ont apportée. Et puis, je me demande si Taylor Swift a apporté avec elle une révolution musicale. Je ne connais pas la réponse, probablement que oui. Mais je pense qu'il devrait y avoir des livres à venir, là. Ça presse, là. Écrivaine, allez-y. C'est comparaison entre Taylor Swift et les Beatles. Et puis, moi, ce matin, finalement, je me suis dit que la comparaison entre les Beatles et Taylor Swift, à la base, je pense que c'est une question de climat. C'est-à-dire que les deux, les Beatles et Taylor Swift, génèrent un climat de joie, d'effervescence, de festivité. C'est pas nécessairement joyeux, ça peut être triste. Il y avait des chansons tristes chez les Beatles, mais c'était des mélodies dont on se souvient encore. On a de la misère à se souvenir de poèmes, mais ces chansons-là sont incrustées dans nos mémoires toutes seules. Alors, c'est ça, je pense que c'est une question de climat, de bon climat, que Taylor Swift et les Beatles engendrent. Puis, bien, j'ai fait une réflexion sur le climat. Ce matin, nous sommes à Sherbrooke. Il y a un climat d'automne qui est frais et qui est très beau. Vous avez un soleil, c'est bon. Je suis pas mal certain que c'est différent d'un climat tropical qui serait beau, ou d'un climat de l'Amérique du Sud qui serait beau, ou de l'Asie. Ça se peut qu'en Asie, il fasse beau en ce moment. C'est beaucoup plus chaud, plus humide, mais c'est très beau. Alors, il y a des différentes sortes de beaux climats. Je crois que Beatles et Taylor Swift, ce sont deux sortes de beaux climats. Merci beaucoup d'être là, vous deux. Et nous vous écoutons et nous jouissons de votre présence. À quand Taylor Swift à Sherbrooke? Les Beatles ne sont pas venus à Sherbrooke. Cependant, Genesis est venu et... comment ça s'appelle? Donc, Gentle Giants. Alors, voici une citation de René Dubois entendue à l'émission Le Bonheur, diffusée le 11 septembre 1983. Le bonheur est contagieux et pour cette raison, sa pratique est presque un devoir. Les membres les plus utiles du corps social ne sont pas nécessairement ceux qui augmentent la production ou la connaissance, mais ceux qui contribuent le plus à la joie de vivre. La bonne humeur et la gaieté sont de véritables vertus sociales, presque indispensables à la santé de la civilisation technologique. La plus grande richesse personnelle, de même que la plus importante contribution au bonheur collectif, est la spontanéité du sourire et du rire. Rire est plus que jamais le propre de l'homme ou de l'humain, n'est-ce pas? La meilleure garantie contre le mauvais sort est de prendre la vie avec le sourire. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Et puis, dès lundi dernier, mon émission était prête. Mais depuis lundi dernier, elle ne cesse de s'enrichir. Puis, je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout vous dire. Puis, j'aimerais avoir le temps de tout vous dire, tout en mettant un peu de musique et les deux publicités que la radio je dirais pas force, mais souhaite qu'on le fasse. Et c'est la question commerciale, n'est-ce pas, qui nous enveloppe. Alors, ce matin, dans la page Facebook de Roméo Bouchard, que je vous suggère d'aller voir entre deux études, là, ça s'appelle « Au commencement était le chaos ». Donc, si Trump arrive à la Maison-Blanche beaucoup mieux préparé que la première fois, le chaos qui est susceptible de provoquer en Amérique et dans le monde n'en est que plus grand. Et on commence à l'entrevoir avec la collection d'extrémistes dont il s'entoure. Alors, on peut voir qu'il y a un sabotage en règle de tous les acquis internationaux dans la lutte contre le réchauffement climatique qui s'en vient, un mouvement de protectionnisme, un blocage violent des flux migratoires, quatrièmement, une politique de paix favorable aux États totalitaires, écrit Roméo Bouchard. Moi, je dirais une politique d'asservissement. Cinquièmement, un démantèlement de l'État américain au profit de l'initiative privée à coup de purge de coupures budgétaires dont vont s'occuper avec plaisir M. Musk. L'instrumentalisation du système de justice et des médias d'information à des fins politiques. Le mépris de la science et de la vérité. C'est ça. Fait que je vous suggère d'aller voir ça, Roméo Bouchard, dans sa page Facebook. Et puis ce matin, je voyais dans Reporter, R-E-P-O-R-T-E-R-R, une revue gratuite d'Internet à laquelle vous pouvez vous abonner. Fait que je recevais ce matin un avis à propos des pesticides. On dit que la France est attaquée en justice pour avoir exporté des pesticides interdits. Il y a une demande de cesser l'exportation depuis l'Hexagone de pesticides interdits à l'Union européenne. Il y a 7300 tonnes de ces substances prohibées qui vont partout en Europe. Et puis, il y a une urgence d'arrêter ça. Par exemple, la picoxystrobine, qui est un fongicide utilisé dans les cultures de céréales et de soya, qui a été interdite à l'Union européenne en 2017 pour son potentiel génotoxique, c'est-à-dire sa capacité à altérer l'ADN et sa haute toxicité pour les organismes aquatiques et les vers de terre, eh bien, ces produits-là vont dans l'Europe. Et puis, savez-vous quoi? C'est qu'ils reviennent dans la France par les aliments qui ont été cultivés ailleurs. Fait que l'organisme qui s'appelle Vert de Rage, V-E-R-T, de Rage, révèle la présence de résidus de 5 pesticides interdits dans plusieurs aliments qui se retrouvent en France par l'importation. Exemple, 77 % des pommes, 60 % du riz, 53 % des haricots importés du Brésil. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'une tendance lourde de cette émission jusqu'à Noël, c'est la sécurité alimentaire. J'ai déjà fait une émission vendredi dernier. C'est pas normal, parce que d'habitude, c'est le jeudi. Je l'ai faite le jeudi et le vendredi aussi. C'était Moisson Estrie, un radioton organisé par CEFAC. Et puis, j'avais justement Joël Latour de La Grande Table et de Champ d'Action, C-H-A-M-P, S d'Action, qui interviewait, qui collaborait avec moi pour interviewer des gens de, par exemple, Crocarium, et puis trois autres personnes. Donc ça, ça va être en balado, n'est-ce pas? Et malheureusement, parce que les gens de la radio ont tellement travaillé fort la semaine dernière, ils n'ont pas encore eu le temps de mettre ça en balado. Mais ce ne sera pas long, me dit-on. Soyez patients, patientes. Fait que, donc, dans la tradition de la sécurité alimentaire de ce semestre, tiré d'un livre que j'ai sur les légumes asiatiques, ça s'appelle « De l'Asie au Québec pour une plus grande souveraineté alimentaire ». Je peux lire que « Le droit à l'alimentation est un droit fondamental reconnu par tous les pays du monde. La sécurité alimentaire désigne un accès en quantité suffisante à de la nourriture qui correspond aux besoins nutritionnels et culturels de toute personne. Or, c'est pour nourrir le monde qu'on a vu les monocultures des plantes transgéniques modifiées s'imposer dans le paysage agricole mondial. La privatisation des ressources naturelles et l'inclusion des denrées alimentaires dans les accords commerciaux minant les systèmes alimentaires locaux. Alors, le concept de souveraineté alimentaire a été développé par le mouvement paysan international, la Via Campesina. Il propose un objectif planétaire qui tient compte des relations de pouvoir au sein du système alimentaire et qui vise à les transformer de sorte à redonner la propriété et le contrôle des ressources à ceux et celles qui produisent la nourriture. Incidemment, dès la semaine prochaine et pour 5 semaines, j'aurai en entrevue Gabrielle Rondeau, il y a un deuxième nom de famille que j'oublie, directrice de Rêve Nourricier, qui va nous parler de différents projets à Sherbrooke de Rêve Nourricier. Donc, concrètement, cela se traduit par le droit des communautés de cultiver la terre, de décider de ce qui est cultivé et en quelle quantité, de la manière dont les aliments sont produits et avec quelles ressources et ce qui se retrouve dans nos assiettes. Pour atteindre la souveraineté alimentaire, nous avons plus que jamais besoin d'une agriculture agroécologique, telle que nous la décrivons dans ces pages. Une agriculture fondée sur une communauté paysanne, une agriculture réalignée sur un mode de vie et de production qui est en harmonie avec la nature, une agriculture s'inscrivant dans des systèmes politiques et culturels profondément transformés dans une perspective de justice sociale et de viabilité économique. Nous croyons fermement que le fait d'accroître la présence des légumes asiatiques agroécologiques dans les jardins et les assiettes, ainsi que dans notre imaginaire collectif, contribue à notre souveraineté alimentaire, et ce, pour plusieurs raisons. Bon, par exemple, il y a le bok choy, là. Fait que les raisons, c'est se nourrir au rythme des saisons, faciliter l'accès aux légumes de qualité, célébrer la diversité culturelle, culturelle et alimentaire, puis cultiver et manger plus vert à longueur d'année. Donc ça, c'est dans le livre « Les légumes asiatiques » que j'ai trouvé, moi, à la librairie GGC. Et puis l'agriculture agroécologique dont elle parle, j'ai déjà lu à ce sujet. Vandana Shiva, dont je vous ai déjà parlé, c'est ce qu'elle propose en Inde. Elle est physicienne et agricultrice. puis son but, c'est de réparer la Terre. Elle dit que 50 % des gaz à effet de serre, c'est tout ce qui est relié à l'alimentation, non seulement l'agriculture, mais le transport et tout ça, là. Et puis, avec son agriculture agroécologique, c'est presque zéro gaz à effet de serre. Bon. Et puis, j'ai déjà parlé au conseil municipal comme citoyen. J'ai suggéré que le territoire de Sherbrooke, qui est agricole à 37 % soit agroécologique. Et disons que je n'ai pas eu pour l'instant une écoute attentive, mais dans le plan d'urbanisme qui est en travail en ce moment, peut-être qu'on va avoir des surprises agréables. Et puis, disons que ça fait déjà 15 minutes que j'ai commencé. Je vais continuer juste un petit peu avec la chronique autochtone que je vous fais à toutes les semaines. C'est un livre de Caroline Montpetit qui s'appelle « Bonjour, Kwe, à la rencontre des langues autochtones du Québec ». Mais cependant, je précède d'une page tirée du livre « Lettres d'amour au territoire ». On peut y lire que le carcajou était aussi appelé glouton ou gulot, nom latin qui signifie glouton. C'est un chasseur féroce qui peut même affronter des ours noirs. Il grimpe haut dans les arbres et saute sur ses proies, et son territoire de chasse peut faire jusqu'à 1 000 km². Il en sait long sur la souveraineté et sait comment un petit corps peut prendre beaucoup de place. En Nehiyawewin, Kinkawanekokwi, ça veut dire carcajou. Fait que je ne sais pas trop dans quelle langue. Fait que... c'est en Inuit, c'est en Inuit. Alors, d'autres mots d'Inuit, c'est... Atuk, ça veut dire je ne sais pas. Avatak, c'est balise. Izuma, l'esprit Inuit. Natak, c'est double couche de glace séparée par de l'eau. Kalunak, étranger. Kalunahat, étranger avec au pluriel. Et Kanutik, ça veut dire traîneau. Ça, c'est Jean Désy. C'est un médecin québécois qui se promène dans le Nord. Alors, Caroline Montpetit dit dans son livre « Bonjour, point d'exclamation, Kwe », c'est K-W-E, point d'exclamation, que des millénaires avant l'arrivée des Européens en Amérique, les langues autochtones ont dit la glace qui craque sur le poids de l'eau au printemps et l'été qui ramène les fraises. Elles ont dit où grouille le poisson et où il faut se cacher pour guetter l'orignal, les chemins qu'il faut prendre, ceux qu'il faut éviter. Puis leurs mots se sont perdus dans le fracas du choc colonial. Les langues autochtones du Québec étant toutes de tradition orale, ce n'est qu'à cette époque que des missionnaires ont commencé à les transcrire. Ce sont aussi des langues polysynthétiques, c'est-à-dire qu'il est courant d'y exprimer une phrase complète à partir d'un seul verbe décomposable en plusieurs parties. Dans le dictionnaire Usito, la linguiste Lynn Drapeau donne un exemple, la phrase « As-tu déjà mangé de la viande de phoque » qui exprime en Inuktitut par un seul mot « Natsik vinik tuak uk sima vitili ». Cela peut se traduire littéralement par « phoque viande mangée » avant déjà intégratif « tu mets ». Parmi les langues minoritaires subissent la pression de la mondialisation, tout récemment, une étude de l'Australian National University estimait que les 7000 langues actuellement reconnues sur la planète, 1500 ne compteront plus aucun locuteur d'ici la fin du siècle. Alors, c'est malheureux. Et puis, ça me rappelle une bonne nouvelle, c'est que l'Atikamekw est enseigné officiellement, légalement, dans des écoles primaires sur le territoire Atikamekw. Alors, félicitations, puis je vous encourage. Donc, les années 2022-2033 ont été seront consacrées, en tout cas, la décennie internationale des langues autochtones par l'UNESCO. Pourtant, selon les données de Statistique Canada, 15,6 % de la population autochtone canadienne déclarait pouvoir soutenir une conversation dans une langue autochtone. Tout n'est pas perdu, dit Madame Montpetit. Alors, bravo à Caroline Montpetit pour ce livre-là. Aujourd'hui, dit-elle, Monique Nolette-Hill s'est retirée de l'enseignement de l'Abénaki et c'est un non-autochtone, Philippe Sarlan, qui l'a remplacé. Docteur en géographie, celui-ci enseigne aussi au Cégep du Vieux-Montréal, à l'Université du Québec à Montréal, au Centre d'études collégiales autochtones Kinoa. Et savez-vous quoi? Il enseigne ici à l'Université de Sherbrooke en ce moment. Philippe Charlin a remis à Patrimoine Canada un dictionnaire français Abénaki de près de 5000 mots. Rédigé en collaboration avec le conseil de bande d'Odanak et des membres de la communauté abénakise. Bon, elle donne quelques mots d'Abénaki. Bonjour, c'est Koué. Comment vas-tu, c'est Tani Kdalawazi. Ça va bien, c'est Nwalazi. Merci, c'est William Nier. Et au revoir, c'est Adio. On voit, je ne sais pas, peut-être un lien avec l'espagnol. Et la communauté d'Odanak, c'est 2540 personnes. Langue autochtone parlée, c'est l'Abénaki, moins de 5 %. Autre langue parlée, c'est le français, 100 %, et l'anglais, 10 %. Alors, je vous donnais des extraits de Caroline Moparty. Son livre, c'est « Bonjour, Koué, à la rencontre des langues autochtones du Québec ». À tantôt, une publicité. Oui, vous êtes de retour à nous le futur. Mon nom, c'est Claude Saint-Georges. Et le chanteur qui chantait ça, c'est Baladeur, et le titre, c'est « Bourgeoise ». Que c'est beau, que c'est bien rythmé. Le mot farandole m'a frappé. Et puis, je me suis dit, supposons que nous serions tous et toutes bourgeoises dans le monde entier. Qu'est-ce qu'on ferait? Eh bien, on prendrait des bains de forêt, entre autres. Qu'est-ce qu'un bain de forêt? Bien, j'ai justement mon livre ici qui me dit que les bains de forêt renforcent le système immunitaire. L'une des manières de tester l'état du système immunitaire est de se pencher sur l'activité des cellules tueuses naturelles, les cellules NK. Il s'agit d'un type de lymphocyte qui doit son nom à sa capacité à attaquer et éliminer les cellules indésirables, par exemple celles infectées par un virus ou les cellules cancéreuses. Donc, dans une étude que l'auteur dit qu'il a effectuée, là, c'est King Lee, celui qui a écrit le livre sur le Shinrin-yoku, nommé plus québécoisement les bains de forêt. Alors, j'ai trouvé qu'au bout de 3 jours et 2 nuits passées dans la forêt, l'activité des cellules tueuses naturelles est passée de 17,3 % à 26,5, soit une augmentation de 52,6 % et que la présence de la protéine anticancer granulisine avait augmenté de 48 % la granzyme de 39 % la granzyme B de 33 % et la perforine de 28 % Bon, c'est pas assez anticancer, ça prend d'autres choses. C'est quoi le pouvoir des arbres, le pouvoir des arbres? Je savais que nos 500 jouaient un rôle crucial dans les effets apaisants des bains de forêt. Les images, les sons, les goûts, les touchers de la forêt ont tous un impact puissant sur notre bien-être. Mais l'odorat était peut-être le plus influent de tous. Se pouvait-il que la substance aromathérapeutique naturelle respirée dans la forêt, ce sont les phytoncides, soit responsable de l'énorme renforcement du système immunitaire? Bon, bien d'abord, les phytoncides, c'est quoi? Outre une grande concentration en oxygène, l'air de la forêt regorge de phytoncides. Les phytoncides sont les huiles naturelles figurant dans une plante et font partie du système de défense des arbres. Les arbres libèrent des phytoncides pour se protéger des bactéries, insectes et champignons. On dirait que ce n'est pas pour se protéger des humains, parce qu'on en profite. Alors, un autre petit détail de ce livre-là. Si un seul arbre peut cependant absorber 4,5 kg de polluants atmosphériques par an. Les arbres ont dépollué l'atmosphère pour l'équivalent de 3,8 milliards de dollars, ont empêché 670 000 cas de symptômes respiratoires aigus et épargné 850 vies par an. Et en dernier lieu, l'avenir de nos forêts urbaines. En 2015, le Forum économique mondial a fait de la multiplication des toits verts l'une des 10 initiatives urbaines, et aux quatre coins du globe naissent des mouvements encourageant les villes à planter plus d'arbres et à croître le nombre d'espaces verts. Donc, je nuance tout simplement quatre coins du globe. Le globe, c'est rond, fait que ça n'a pas de coin. Là. Ça, c'est pas moi, c'est Bachman Stoffler qui disait ça souvent. Et puis, quelle ville représente le pourcentage d'espaces verts les plus élevés? Et Singapour, c'est 29,3%. Vancouver, 25,9%. Sherbrooke, où est-elle? Je pense qu'elle devrait être là. C'est une bonne ville pour le couvert forestier. En général, à quelques endroits, c'est 12%. S'il y en manque, il faut en planter. Fait que chaque arbre compte. Melbourne envisage de faire passer sa canopée de 22 à 40% d'ici 2040. Alors, félicitations, Melbourne. On va essayer de te battre. Sherbrooke va battre Melbourne. Maintenant, je passe aux nouvelles. Guy Rocher, vous connaissez Guy Rocher? Donc, c'est un philosophe sociologue peut-être, mais en tout cas, c'est un très grand auteur du rapport Parents vers 1960 et 10 à propos de la réforme de l'éducation. Et là, il me vient une nouvelle que j'ai oublié de vous dire, mais il faut absolument que vous la sachiez. Il existe ce soir à 5 heures sur la rue Conseil un regroupement interculturel qui va faire goûter leur nourriture aux Cherbourgeois, Cherbourgoises qui désirent goûter. Alors, c'est sur la rue Conseil, au centre culturel, là où il y a des spectacles d'habitude. Fait que dès 5 heures jusqu'à 8 heures, il y a ça. Fait que le groupe Debout pour l'école qui donne suite au projet du rapport Parents, c'est quoi les grandes lignes du plan d'action jusqu'au printemps 2026? C'est le projet du livre blanc citoyen sur l'éducation. Et après ça, il va y avoir des contacts et des échanges pour organiser ce projet-là, le projet du livre blanc citoyen sur l'éducation. Bon, en octobre 2025 jusqu'au en mars 2026, il va y avoir diffusion de la version et démarche pour obtenir un appui large auprès des Québécois du livre. Et il va y avoir une préparation dans un grand rassemblement qui s'appelle le Rendez-vous national sur l'éducation. Et à la fin du printemps 2026, c'est le Rendez-vous national sur l'éducation où sera lancé le livre blanc sur l'éducation. Donc, c'était une nouvelle sur Debout pour l'école. Et je vous encourage, c'est Roméo Bouchard qui en parlait, aller voir dans la presse Guy Rocher qui dénonce fermement l'école à trois vitesses et appuie le plan pour une école commune. Donc, c'est dans la presse que Guy Rocher, qui est un professeur à la faculté de droit, là, Université de Montréal, j'appuie le plan pour un réseau scolaire commun mis de l'avant par École Ensemble. Il s'agit de la proposition la plus cohérente pour parachever le rapport parent et enfin doter le Québec d'un système d'éducation juste. Le système d'éducation actuel est un gâchis public humain, selon Guy Rocher, qu'il dit dans la presse de la semaine dernière. Donc, il y a une nouvelle génération d'élus. C'est à eux qu'incombe la tâche, ardue et passionnante, dit Guy Rocher, d'arrimer nos institutions à nos valeurs fondamentales, le droit de chacun à la meilleure éducation possible. Cela commence par nous donner une école commune. Alors, ce qui m'amène à vous parler de, justement, l'école commune, là, il y a un site Internet avec ça. C'est imaginer une famille québécoise avec des enfants d'âge scolaire. Cette famille est inquiète. Ses enfants seront-ils acceptés par la bonne école? Sera-t-elle capable de se payer cette école? Déjà, il faut payer un tuteur pour aider à passer les examens. Les enfants devront-ils faire de longs trajets matin et soir? Et leurs amis iront-ils, eux, à la bonne école? Alors, nous, nous sommes du plan pour un réseau scolaire commun. Notre cause, c'est de mettre fin à la ségrégation scolaire causée par les réseaux privés subventionnés et le public sélectif. Il faut enfin apprendre ensemble pour, et faire un plan pour un réseau scolaire commun. Le système scolaire du Québec est injuste. Soumis à une logique de marché, les écoles se concurrencent pour obtenir des élèves les plus payants en matière de revenus et de résultats scolaires. Alors, soyez attentifs. Allez voir le plan pour un réseau scolaire commun. Tu sais, si ça existe, là. Le plan, en résumé, c'est créer un réseau commun qui mettra les écoles publiques et les écoles privées subconventionnées à l'abri du marché scolaire. Toutes les écoles du réseau commun auront un bassin scolaire propre. Toutes les écoles du réseau commun seront sans frais de scolarité et toutes les écoles du réseau commun offriront un libre choix de parcours. Donc, allez-vous dans Internet, là, l'école ensemble, c'est aller voir ça. Fait que si je comprends bien, et j'ai bien compris, Guy Rocher, c'est le premier qui a écrit pour, avec la commission parent, là, pour avoir un bon système scolaire au Québec. Ça a commencé, mais c'est en train de faire un gâchis. Pour corriger ce gâchis, il y a l'organisme Debout pour l'école. Il y a aussi l'organisme Ensemble pour l'école, OK? Fait qu'allez voir ça, nourrissez-vous de ça, puis encouragez-les, s'il vous plaît. Je continue les nouvelles. Ça, c'est après lundi. Là. Lundi, j'étais prêt pour mon émission, mais il m'arrive des nouvelles. Des milliards de tonnes de GES produites par les énergies fossiles canadiennes exportées. Alors, je me scandalisais du fait que l'ère Trump va occasionner 4 milliards supplémentaires de gaz à effet de serre, mais je ne soupçonnais pas que le Canada produit 10 milliards depuis 2012 jusqu'à 2023 de gaz à effet de serre, pas au Canada, mais ailleurs, avec les énergies fossiles canadiennes exportées. Par ailleurs, la COP 29 a démarré le 11 novembre à Azerbaïdjan, et M. Guterres se demande, et la COP 29 aussi, les plus riches vont-ils enfin payer leurs dettes climatiques? Ça, c'est une grosse question que pose, par exemple, l'Union des scientifiques responsables, Union of Concerned Scientists. L'objectif des tractations devrait viser 1 000 milliards de dollars annuels. Et la mise en place d'un impôt mondial sur la fortune, 2 % de l'impôt sur la fortune des 3 000 milliardaires, pourrait apporter 250 milliards de dollars par année. Ça, c'est parce que c'est important pour les milliardaires de les viser, parce que les 1 % des plus riches ont émis deux fois plus de carbone que la moitié pauvre de l'humanité. Je pense pas que je vous apprends ça. Hein. C'est des choses qu'on entend dire assez souvent. Donc, il y a eu le jour du souvenir récemment. Bon, c'est important d'avoir une certaine gratitude envers ceux qui ont fait des guerres. Mais ceux qui ont fait des guerres sont souvent manipulés par des dirigeants qui font faire des guerres par eux pour faire des profits. Fait qu'il y a le coquelicot blanc qui, en quelque sorte... conteste, on va dire, le coquelicot rouge. La cérémonie alternative du jour du souvenir clôturant la 14e campagne du coquelicot blanc du collectif a eu lieu le 9 novembre 2024 à la salle Osgang Plaza de la rue Saint-Hubert. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent, le coquelicot blanc? C'est parrainé par le groupe Échec à la guerre. Et puis, il va y avoir une contestation bientôt, là. De la fabrication des avions F-35 qui bombardent actuellement Gaza. En menant une action coordonnée, non seulement nous perturberons la chaîne d'approvisionnement des F-35, nous utiliserons cet exemple pour raconter une histoire puissante sur la complicité canadienne et québécoise dans le génocide israélien. Donc, Échec à la guerre propose un embargo sur les armes. Et puis, non seulement, tu sais, il y a une organisation, là, une usine qui produit des F-35, allez voir Échec à la guerre qui dit ça, mais on sait qu'ici, il y a déjà eu Lockheed Arms, à l'Université de Sherbrooke. Et puis, on voit que Trudeau essaie d'atteindre très fort l'atteinte de 2 % du budget du Canada pour l'OTAN. Avec les pressions de Trump, là. Et nous préférons que cet argent-là aille pour des logements, pour la santé. Fait qu'il faut penser en termes de souveraineté alimentaire aussi. On pourrait créer une alliance entre les humains et les écosystèmes, parce que je veux vous donner des bonnes nouvelles avec ça. Fait que c'est Jane Goodall, dans son livre de l'espoir, dans ce livre-là, elle voit des raisons d'espérer dans 4 choses. Les ressources stupéfiantes de l'intellect, la résilience de la nature et le pouvoir de la jeunesse, et finalement, la force indomptable de l'esprit humain. Donc, le pouvoir de la jeunesse. Je sais que le journal communautaire Entrée libre, qui existe à Sherbrooke depuis 38 ans, aimerait agrandir son comité de rédaction, et il souhaite que des jeunes fassent partie du comité de rédaction. Alors, vous savez, par ailleurs, que le Conseil régional de l'environnement envoie une infolettre une fois par mois, une infolettre tellement riche que c'est difficile de choisir qu'est-ce qui est le plus intéressant. Bon, mais je me suis forcé. J'ai choisi que les Rachel qui changent le monde, ce sont des vidéos de 10 femmes de science engagées partout au Québec qui nous font découvrir l'enjeu de la bonne nourriture privée de pesticides. Donc, vous pouvez aller voir les Rachel qui changent le monde, dont nous parle le Conseil régional de l'environnement, ainsi que le défi citoyen pour le climat. À chaque mois, il y a un défi citoyen pour le climat. Que propose le Conseil régional de l'environnement? Et moi, j'aimerais ça peut-être, si ça pouvait s'organiser, là, le journal Entrée libre ou un autre organisme, là, ça pourrait être CFAQ, et le Conseil régional de l'environnement, une fois par mois, on pourrait organiser un visionnement des films des scientifiques, femmes scientifiques qui parlent contre les pesticides, ainsi que à chaque mois, l'activité citoyenne écologique prévue en tant que défi par le Conseil régional de l'environnement. Et finalement, dans les nouvelles, je voulais vous dire qu'il y a un article qui s'appelle « Pourquoi nos démocraties sont-elles à risque? » Donc, l'auteur, c'est Alexandre Maheu-Diaz. Je trouve que c'est un article important dans Le Devoir, mais à mon avis, peut-être ignore un petit peu là, la question de constituer le Québec, c'est-à-dire de l'écriture citoyenne de la Constitution, qui est très importante pour la réforme de la démocratie. Et le meilleur livre que je peux vous suggérer à ce moment-là, c'est « Constituer le Québec » de Raymond Bouchard. Alors, je continue avec le livre « Les Beatles de l'histoire au mythe ». Bon, mais c'est écrit par un historien, parce qu'il y a des centaines de livres sur les Beatles. Et puis, j'ai beaucoup trop de choses que je vais vous dire à ce propos-là. Mais ça s'appelle « Les Beatles de l'histoire au mythe ». Et puis, Philip Glass apprécie les Beatles. C'est un très grand musicien. On les a comparés à Mozart, mais ça tient pas la route. Parce que ils ne connaissaient pas le solfège. Ils ne savaient pas comment écrire la musique, les Beatles, contrairement à Mozart. Et puis, ils ont beaucoup moins d'heures d'écoute que des 200 heures de Mozart. Mais Philip Glass dit que « Je constate que la grande aventure de notre époque est l'émergence d'une culture musicale mondiale qui dépasse les frontières géographiques, raciales et de genre. De ce point de vue, l'impact de la vie et de l'époque de George Harrison a été considérable. Il a joué un rôle majeur en faisant sortir plusieurs générations de jeunes musiciens du désert desséché et moribond de la musique eurocentrée pour la faire entrer dans un nouveau monde. Je ne doute pas que cette partie de son héritage serait la plus durable. Et ce n'est pas tout. Il a ouvert les portes de ce nouveau monde musical avec une conviction et une énergie profonde, ainsi qu'avec une clarté et une simplicité remarquables. Paul McCartney, bon, un préfacier d'un livre sur les Beatles, dit que la plupart d'entre nous ne peuvent réciter de mémoire un poème de Ted Hodge, alors que nous pouvons chanter « All You Need Is Love » par cœur ou « Hey Jude ». Les paroles sont ancrées dans le cerveau. Alors, j'ai trop de choses intéressantes à vous dire, là. Ça prendrait, tu sais, juste un livre, ça prendrait deux émissions. Alors, allez voir ça, les Beatles de l'histoire au mythe. Et comme je disais au début, il serait temps de comparer Taylor Swift avec les Beatles dans un livre, et je ne vois pas de livre qui parle de ça en ce moment. Fait que je suis allé voir à la bibliothèque, il y a des livres à propos de Taylor Swift, et ils sont à peu près tous sortis, tu sais. Les gens aiment lire ça. Alors, comme d'habitude, je reçois ICAN France, un bulletin de nouvelles d'eux autres. Là. Fait que vous pouvez vous abonner à ça, c'est gratuit. C'est à propos de la critique du nucléaire. Puis il y a quelque chose de super important cette fois-là. Là. C'est le concept de la dissuasion nucléaire. Ça, c'est le premier mensonge. Il y a une étude de 20 mensonges que fait ICAN France. ICAN, c'est la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Donc, allez voir ça, ICAN France, les 20 mensonges de l'industrie nucléaire. Fait que c'est super important, ça. Fait qu'on est déjà tout près de la deuxième publicité. Je vous reviens dans quelques instants. Vous êtes à l'écoute de À nous le futur et on part. Bonjour, c'est Claude à nous le futur. Je viens d'arrêter le frigidaire parce qu'il restait quelques secondes et que j'ai pas mal d'affaires à dire encore. Fait que, tu sais, cette chanson-là, ça va dans la trame de la sécurité alimentaire, n'est-ce pas? Fait que là, j'ai la section santé à vous parler pas mal. J'ai reçu ce matin du Réseau francophone international pour la santé... Pardon, pour la promotion de la santé. Alors, allez voir ça, là. Le Réseau francophone international pour la promotion de la santé. Abonnez-vous à ça. C'est le REFIPS. Beaucoup d'informations super importantes. La vision, c'est des ressources en promotion de la santé mutualisées, accessibles et adaptées à divers contextes. Et la mission, c'est informer, étudier, inspirer les acteurs et actrices en promotion de la santé. Bon, tu sais, c'est en masse, là. C'est bien le fun. Fait qu'il existe la 20e édition des Journées annuelles de la santé publique. C'est du 2 au 4 décembre 2024 à l'Hôtel Bonaventure de Montréal. C'est en effet une bonne aventure, je vous le promets. Et puis, il va y avoir aussi une conférence internationale. C'est la santé durable, vecteur de progrès socio-économique. C'est à l'Université Laval que ça se passe, mais c'est quand même international. Et puis, la promotion de la santé, une vision systémique pour améliorer la santé, le bien-être et l'équité. Ça va se passer aussi. Allez voir le réseau francophone international pour la promotion de la santé, la région des Amériques, les REFIPS Amériques. Et puis, c'est-tu la presse? Oui, il y a notre ministre de la Santé qui dit « Le budget en santé est intenable. » Bon, bien, cette année, on va atteindre les 60 milliards de dollars. C'est un peu plus de la moitié du PIB québécois. Fait qu'il faut, peut-être diminuer ce budget-là, évidemment, de beaucoup de milliards, là. Et puis, j'ai déjà lu ici un document, ça s'appelle « Réduisons la maladie ». C'est de l'Association pour la santé publique du Québec. Allez voir ça. Fait que là, j'ai un très bon article qui s'appelle, c'est dans la revue « Avantage », avec un S, « Littératie en santé, un enjeu majeur ». Un manque de connaissances préjudiciable. Bon, c'est la presse canadienne du 29 octobre 2024, OK? Fait que la population québécoise manque cruellement d'informations essentielles sur les maladies qui la touchent et les moyens de les prévenir. La Coalition québécoise pour la réduction des maladies a été créée par plus de 20 représentants du milieu de la santé et des grandes maladies des patients. Cette coalition vise à améliorer l'avenir du système de soins en réduisant les maladies évitables. Donc, il y a eu un sondage, là, et puis on note qu'il y a un déficit alarmant d'informations. Seuls 26 % des Québécois savent que des cancers peuvent être évités, alors que plus de 40 % des cancers sont aujourd'hui considérés comme évitables. Moins de la moitié, c'est-à-dire 49 % de la population, est consciente que les maladies cardiaques et neurovasculaires peuvent être prévenues, alors qu'il est possible d'éviter jusqu'à 80 % de ces maladies avec un mode de vie sain. Allez, là, on est pas loin de 80 % de moins du budget de la santé, là. Et j'espère que, tu sais, ce qu'on va épargner, ce sera pas dans le nucléaire, là. Et à faire d'autres armements, il faut que ça aille dans la santé et les logements, et puis le transport, puis l'éducation. Alors, le manque de connaissances est préoccupant car une meilleure littératie en santé, c'est-à-dire les connaissances, la motivation et les compétences pour comprendre et utiliser l'information de santé, est essentielle pour permettre à chacun de prendre des décisions éclairées sur sa santé. Et il y a une perception erronée de l'inévitabilité de la santé. Thomas Bastien, qui est le directeur de l'Association pour la santé publique du Québec, que j'ai déjà interviewé, il souligne l'importance de rendre accessible une information claire et pertinente sur les maladies et leur prévention afin que chacun puisse, de manière proactive, préserver sa santé. Grâce aux avancées scientifiques, écoutez bien ça, il est aujourd'hui possible de prévenir près de 7 maladies chroniques sur 10, y compris certaines maladies cognitives comme l'Alzheimer, qui peuvent être retardées grâce à un mode de vie sain. Alors, moi, j'imaginais aller au conseil municipal puis dire « viser zéro maladie chronique ». Alors, je sais qu'en disant ça, j'aurais passé pour flyer, mais c'est absolument ça que dit l'Association pour la santé publique du Québec à une virgule près, là. Grâce aux avancées scientifiques, il est aujourd'hui possible de prévenir près de 7 maladies chroniques sur 10, y compris certaines maladies cognitives comme les maladies d'Alzheimer. Donc, j'aimerais ça que les villes puissent jouer un rôle, même s'ils ne font pas partie du ministère de la Santé, pour la prévention de la maladie, pour la réduction de la maladie. Allez-vous bien? Ben, tant mieux. Moi aussi, je vais bien et je vais continuer. Il y a un réseau d'action pour la santé durable du Québec qui s'appelle le RASDQ. Je vous en prie, allez voir ça dans Internet, le réseau d'action pour la santé durable du Québec. Ça veut dire, tu sais, faire des liens entre la médecine et l'urgence climatique et faire des liens pour notre santé via une meilleure écologie. Et le Rocky Mountain Institute, bon, vous pouvez accéder à ça aussi. Il travaille sur des bâtiments résilients sans carbone qui sont à notre portée. Ça, je vais en parler plus à Noël, mais... Après Noël, pardon. Ça fait que le RMI, le Rocky Mountain Institute, dit qu'on peut augmenter de 123 % les bâtiments résidentiels qui sont simplement électrifiés et qui, les mesures passives, là, comme les bâtiments solaires passifs, on peut économiser 95 % de l'énergie électrique avec ça. Fait que il existe le bâtiment solaire passif du Québec. Et puis, allez voir le Rocky Mountain Institute et vous savez comme moi qu'on peut... L'ordinateur peut vous traduire ça en français. Alors, il y a un livre dont je voudrais vous parler de Edgar Morin. C'est « Attends-toi à l'inattendu », dans lequel il explique que la compartimentation des disciplines, ce qui rend incapable de percevoir et donc de traiter les problèmes globaux, ce sont des myopes qui nous gouvernent. Donc, on a besoin d'une méthode systémique on parle de transversalité, de transdisciplinarité. L'improbable mais possible métamorphose nous amène à une humanité planétaire capable d'affronter ses problèmes vitaux. C'est pour ça qu'il parle de l'improbable qui devient possible. C'est donc l'inattendu. Attends-toi à l'inattendu de Edgar Morin. Je vous ai parlé la semaine dernière de réparer plus et jeter moins. C'est le bottin des ressources de Sherbrooke que vous pouvez vous procurer à l'ASEF, qui est l'Association des coopératives, Association coopérative économie familiale. C'est 187 rue Laurier que vous pourrez vous procurer ça. C'est 27 pages de ressources pour le recyclage. C'est fantastique, ça. Félicitations à l'ASEF pour avoir fait ça. Et Pierre Jasmin, c'est un pianiste international qui demeure à Magog, qui est secrétaire de l'Association des artistes pour la paix, que j'ai interviewé ici deux fois. Il va faire une conférence, bien, c'est fait, le 13 novembre, sur « Penser la politique étrangère d'un Québec indépendant ». Alors, sûrement que vous allez pouvoir voir sa conférence à lui, là, dans le site des Artistes pour la paix. Alors, l'Association des coopératives des communes familiales de l'Estrie, dont je vous parlais aussi, là, tout tantôt, en vous parlant de son document sur le recyclage, eh bien, ils sont pour, puisque des gens ont la difficulté à payer la facture d'hydro, ils sont pour l'obtention d'un, ou tu sais, qu'il se passe un débat sur l'énergie. Alors, je souhaite bonne chance à la CEF qui veut un débat sur l'énergie. Et puis, j'ai assisté, n'est-ce pas, à une petite manifestation en face de General Dynamics sur la rue Belvedere Ouest. Et c'est là que j'ai appris que le Fonds de solidarité FTQ a investi plus de 130 millions de dollars dans les crimes de guerre et potentiellement le génocide. Alors ça, c'est des Québécois, c'est un fonds québécois qui investit dans les armements. Je suis désolé, très de cela. Et il faudrait peut-être téléphoner à la FTQ pour leur dire, s'il vous plaît, arrêtez ça. Là. Et puis, ben, je crois que c'est le temps d'arrêter. Presque, là. Les armes nucléaires, ça nuit à la biodiversité parce que ça a déjà laissé un héritage environnemental dévastateur dans le monde entier, même s'il n'y a pas eu plus de deux explosions nucléaires pendant la guerre. Il y a eu 2000 essais là, de bombes nucléaires. Okay? Fait que je vous rappelle que Willis Harman, dans La créativité transcendante, donne 6 conditions de la non-paix. Alors, pour avoir la paix, il faut éliminer ces 6 conditions. C'est, par exemple, la menace constante de déclenchement d'un conflit nucléaire ou aussi des armes conventionnelles ou la pauvreté galopante ou la dégradation de l'environnement ou l'injustice entre l'hémisphère nord et sud. Ça fait que le livre, c'est « Créativité transcendante ». Je sais qu'il existe à la Bibliothèque nationale du Québec. C'est déjà terminé. Mon nom est Claude Saint-Georges, c'est À nous le futur. Je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Portez-vous bien, sinon, comme disait mon papa, lâchez-vous, mais il s'émerveillait de tout. Salut.